Notre invité cette semaine, M. Yves Michaud. M. Michaud, voici une citation d'Oscar Wilde. Le démocrate exige que tous les citoyens prennent le départ sur la même ligne. L'homme de droite estime qu'on devrait en arrêter quelques-uns en route. L'homme de gauche voudrait qu'ils finissent tous premiers. Et vous, vous vous situez où?
Ben moi, je répondrais par une citation, je pense, de Chesterton, qui disait « La démocratie, c'est un gouvernement de brutes tempéré par les journalistes. » Moi, j'étais un journaliste de métier, et il y a quelque chose de brutal hein, dans l'exercice de la démocratie et dans la règle implacable et souvent cruelle et injuste de la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. Elle a souvent tort. Et souvent, ce sont les minorités qui ont raison.
Mais la presse, vous parlez de la démocratie, la presse joue un rôle fondamental dans l'articulation de la société dite démocratique. Quand vous regardez le traitement actuellement fait par la presse de manière générale, est-ce que vous trouvez que le travail est bien accompli?
Absolument pas. Il y a une telle concentration des entreprises de presse entre les mains de quelques milliardaires. Ben, écoutez, il y en a deux finalement. Il y a Pelado, le fils, et puis il y a Paul Desmarais avec Power Corporation.
Donc la diversité des voix
ça n'existe pas. Les autres, c'est des petites voix qui crient dans le désert. Hein.
C'était plus présent à votre époque, au début des années 60, quand vous dirigiez, par exemple, la patrie. Est-ce que cette diversité des sources était présente?
Je crois qu'il y avait plus de diversité des sources. Au début du siècle, en tout cas, c'est les débats politiques étaient ravageurs. Quand on pense à Olivier Asselet, Arthur Buy, Armand Lavergne, etc. Mais tout ça, c'est étiolé. Mais aujourd'hui, c'est le conditionnement, c'est l'abrutissement et l'abêtissement du public par une télévision qui est infantile.
Alors, comment bien s'informer, Monsieur Michaud?
Oh, comment je... Moi, je lis tous les matins. Là, j'ai les trois journaux, je les regarde. Je regarde la presse. Il y a quelques bons chroniqueurs à l'occasion. Le Devoir n'est plus et Le Devoir se distingue dans son indépendance, mais il n'est pas très combatif. Hein. Il singe un peu les grands et puis à sa place. C'est une voile qui doit être maintenue dans l'espace politique québécois. Et puis le Journal de Montréal, et pourtant le Journal de Montréal fait des choses que les deux autres font pas. Ils font des enquêtes parfois, ils révèlent des choses. C'est très populiste. Hein. Et cela dit, populiste, là, pour moi, ça n'a pas une connotation péjorative. Hein. C'est un journal populaire qui fait beaucoup de sport et puis qui est à ras-le-sol. Et pourtant, ils réussissent en matière financière à faire changer les choses et à faire des enquêtes que les autres ne font pas.
Alors, ma question sera brutale. La presse est-elle libre?
Non. La presse n'est pas libre. C'est la presse des puissants, c'est la presse des dominants, c'est la presse des milliardaires. Elle n'est pas libre. Des journalistes peuvent, à l'occasion, se ménager un espace de liberté à l'intérieur des groupes pour lesquels ils travaillent. Cela arrive parfois, mais je souhaiterais que ça arrive plus souvent et qu'il y ait davantage de voix contestataires qui s'élèvent à l'intérieur même de ces groupes-là.
Monsieur Michaud, nous allons maintenant vous faire découvrir une pièce que vous ne connaissez pas, qui s'appelle « Et moi, je m'en passe ». C'est une très jolie chanson qui vient de la collection de Mme Hélène Baillargeon. C'est un chant traditionnel qu'elle tenait de la collection d'Ernest
Hélène
Gagnon.
Hélène Baillargeon,
oui.
L'auteur d'Olivier Asselin.
Voilà.
Ah bon,
qui
bah, lui-même, une grande amie.
Qui lui-même la tenait d'Hector Graton.
Oh mon Dieu.
Et quant à Hector, il la tenait, paraît-il, pour la suite. Alors, on va s'en passer, simplement prendre le plaisir de l'écouter. Et moi, je m'en passe, interprété par le groupe Chasse-Galerie.
Mon père.
Mon père n'avait fille que moi.
Encore sur la mer, il m'envoie.
Écoutez Destination Bonheur, Armand Dubois au microphone, en compagnie de M. Yves Michaud. M. Michaud, bon, votre regard est assez sévère à l'égard de la presse. Vous avez toujours été animé par ces questions d'inégalité. Vous avez entamé cette bataille qui a fait en sorte que nous vous surnommons maintenant le Robin des banques, à l'égard de ces profits que vous trouviez peut-être un peu trop faramineux, à l'égard de ce qui se faisait concernant les actionnaires de certaines institutions financières. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette bataille?
Ce sont les circonstances. Hein. Un jour, ma femme Monique me présente, elle avait quelques sous chez son courtier que le courtier gérait, et elle me dit, ça veut dire quoi, non disponible? Alors, je me suis informé, comme tout journaliste, comment non disponible, pourquoi? Alors, ce que j'ai appris, c'est que l'Industrielle Alliance, dont le président était Raymond Garnon, ancien ministre des Finances du Québec, propriété d'une Trosco Générale du Canada, une maison mère qui détenait le Trosco Générale du Canada, ne pouvaient plus rembourser les citoyens qui leur avaient prêté de l'argent. Ils offraient un règlement de 30 cents du dollar parce qu'ils avaient fait des mauvais placements dans l'immobilier. Alors, je découvre par la suite que le gouvernement du Québec, la Régie d'assurance dépôt, donne 80 millions de dollars à la Banque nationale pour acheter Trust Générale du Canada, la filiale. Alors, je reste médusé devant cela. 80 millions à une banque pour acheter Trust Générale du Canada. Alors, c'est comme cela que j'ai, avec des techniques toutes simples du journalisme d'investigation, d'enquête politique, que j'ai descendu dans les profondeurs abyssales de ce monde secret, glauque, emmuré, pestilentiel des institutions financières. Et parce qu'il n'y a absolument aucune espèce de protection de la part des plus faibles et des plus démunis. Vous savez, même si vous confiez l'administration de votre portefeuille, de vos épargnes, à un courtier ou une compagnie, il faut faire exactement comme quand les porcs épics font l'amour. Il faut faire très, très, très attention.
Et vous êtes encore très animé par toutes ces inégalités.
Oh mon Dieu, mais ça ne cesse de s'amplifier. Hein.
En 1999, vous avez écrit « On n'arrête pas le progrès. Oui, s'il conspire contre la dignité, la sécurité et les besoins de l'homme, le libre-échange et certains aspects de la mondialisation ont certes des vertus comme l'ouverture des grands marchés à des petites nations, mais il ne faut pas qu'ils se traduisent par l'éclatement des cadres nationaux, des références culturelles et historiques qui leur sont propres et qui entendent préserver leur unité et leur singularité. » Il me semble que dans ce propos, dans ces écrits, on résume assez bien la pensée qui se cache derrière toutes vos batailles. Vous disiez vous-même que vous avez toujours été un contestataire, mais vous croyez profondément ce que vous avez écrit à cet égard.
Ah oui, autrement je ne me dépenserais pas chaque année dans des assemblées d'actionnaires à la fois au Québec et dans le reste du Canada. C'est drôle qu'on appelle ça le reste du Canada, comme si le Canada était un reste par rapport au Québec. Mais
alors c'est l'homme politique qui ressurgit là.
Ah ben non, mais c'est quand je parle, je dis pourquoi on dit le reste du Canada? C'est le Canada anglais, c'est tout, puis le Québec. Alors Oui, j'ai toujours cette. Vous savez, c'est pas facile. Hein. On m'a raconté. Là, je fais une petite parenthèse. Un de mes amis psychiatres m'a raconté que l'être humain avait deux peurs fondamentales : la mort. Et vous savez, la deuxième, parler en public. Et c'est pour ça qu'après 10 ans, je me retrouve encore seul devant des milliers d'actionnaires pour défendre des petits, que ce soit la Banque Royale du Canada. La première fois que je suis allé là, il y avait 2500 personnes au Royal York et je m'adressais en français. Et les vieilles rombières victoriennes, après ça, se sont ruées vers moi en disant « you » en anglais, d'ailleurs, hein, parce que j'avais fait quelques citations en anglais. Hein, « You don't have the right to speak French in Toronto », etc. Puis presque m'assaillir, hein, ça m'entourait partout. Alors moi, dans mon meilleur anglais, je leur ai dit « as far as I know of ». There are two official languages in Canada. If you don't like that, why don't you move to England? Et ça a passé comme ça à travers tout le réseau canadien, d'une mare à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. Mais moi, 2000 personnes ou 5000 personnes, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à les harceler, à leur demander des comptes, de l'imputabilité, de la transparence, parce que on est rendu dans la mondialisation, la financiarisation du monde. Ce sont les gestionnaires aujourd'hui qui se prennent l'argent des actionnaires que nous leur confions et s'en mettent plein les poches. Ça n'a aucun sens.
De votre complainte, nous passons à la complainte de la butte.
Ah, mon Dieu, oui, la complainte de la butte, oui, c'est Montmartre, ça va me rappeler des bons souvenirs de Paris, ça. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main, ouais. Ben, l'écoutons, c'est Cora Vauquer, hein.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Nous terminons notre entretien avec M. Yves Michaud. Nous venons de vous entendre. Vous êtes un des rares gardiens, j'allais dire, de la langue. D'abord, vous avez une langue de très haute qualité et vous vous portez toujours à la défense de cette langue. Lorsque vous regardez l'état actuel de la langue française dans le Québec moderne, quel est votre constat?
Il n'est pas si pessimiste que d'aucuns le croient. C'est pas si pessimiste que cela. Il y a eu des progrès réels, mais il en reste beaucoup de progrès à faire. Lorsque l'on songe que, et on me demandait il y a quelques jours, qu'est-ce que René Lévesque aurait dit, j'ai dit, écoutez, là, René Lévesque, lui, traînons pas sa mémoire dans le débat politique aujourd'hui. Mais il est certain que il y a eu des progrès. Vous avez parlé de la loi 63, on appelait ça le Bill 63 à l'époque. Il y avait 7% à 8% des immigrants qui étaient intégrés à la vie de la langue française au Québec. Aujourd'hui, il y en a 40. Mais il en reste 60% au cégep, au secondaire, qui vont au cégep de langue anglaise, des immigrants. Alors ça, je trouve ça épouvantable. Normalement, il devrait avoir 8% ou 10% de jeunes de tous les immigrés venant de toutes les parties du monde qui pourraient aller. Mais pourquoi? Parce que on a un enseignement qui n'est pas qualitatif de la langue anglaise au Québec. Et on n'a même pas un enseignement qui est qualitatif de la langue française. On est rendu dans les compétences transversales.
Seriez-vous le dernier des Mohicans?
Pour le dernier, j'aime pas être le dernier de rien. Hein. Je fais penser au vin. Là, c'est le mouton Rothschild qui était classé deuxième cru et puis et non pas premier. Alors mouton Rothschild et sa devise était premier ne puis, second ne daigne, mouton suit. Alors disons premier ne puis, second ne daigne, Michaud suit, c'est tout. Hein. Je suis tel qu'en moi-même, l'éternité m'a figé.
Monsieur Michaud, vos projets, malgré vos 77 ans, toujours très actifs, toujours présents sur la scène publique, vous caressez encore un rêve?
Toujours le même. Toujours le même. Qui me revient, c'est que j'espère en désespérant que je verrai un jour le Québec accéder à la tribune des nations et que le Québec pourrait devenir une partie de la jeunesse et de la richesse du monde s'il arrivait à être maître chez nous.
Monsieur Michaud, ce fut un énorme plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. On vous souhaite longue vie, santé et peut-être un bon vin pour vous accompagner.
Merci et je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Ville-Marie. C'est une radio qui a sa place dans la vie montréalaise et je vous souhaite un avenir fructueux.
Merci infiniment. C'était donc Destination Bonheur, émission réalisée sous la supervision technique d'Alain Primeau. La semaine prochaine avec nous, Madame Rita Lafontaine. Au plaisir. Au revoir.